Émission en jazz sur les ondes de Boulevard 101, exactement midi 43. Donc.
Tu l'as mis à l'envers.
J'allume à l'envers.
Non, c'est parce que... Jeff s'est fait donner un cadeau par une ex-politicienne parce qu'elle a le droit maintenant de le faire.
Venez nous voir
donc,
sur Twitch.
Venez sur Twitch, puis il voulait vous la montrer, mais
mais j'ai Mathieu Good Vibes maintenant. Ça, c'est cool.
Ça, c'est-tu un brand pour lequel tu as investi?
C'est un brand de Good Vibes Only. Ça a été. J'en parle ouvertement là, de ma dépression que j'ai eue en 2019. Puis après cette dépression-là, je cherchais un moyen de dire OK, comment je pourrais. M'a replacé mentalement. Je suis un gars positif de nature. Et là, soudainement, je suis tombé là-dessus, sur Internet par hasard, Good Vibes Only. Puis là, j'ai dit, ça va devenir mon patois. Alors là, toutes mes publications Facebook, je les signais Good Vibes Only. Puis c'est devenu, par la suite, j'ai coaché mon plus vieux Eliott dans le Bantama. Et je terminais toutes mes speeches.
Avec ce mantra-là.
Ouais, je terminais toujours avant les matchs en disant « Hey, on n'oublie pas les gars, le hockey, c'est un jeu, parce que les jeunes de 14-15 ans, des fois, l'estime monte. Good vibes only. » Et là, on s'est fait faire des chandails d'équipe Good vibes only. Ça a parti. On a gagné les séries. Tu sais, c'est une vibe qui a embarqué. Alors, et c'est là aussi que j'ai sûrement reçu le plus beau témoignage de ma vie, parce qu'au party de fin d'année, mon Eliott, 14 ans, est monté sur une table de pique-nique parce qu'on faisait ça dehors au Patron Charlebourg. Puis il a expliqué aux gens comment Good Vibes Only, c'était pas juste le coach de hockey, mais c'était le père.
Beau, ça.
J'en
ça
parle encore, mais j'ai les frissons.
Toi.
Je pourrais peut-être pleurer, mais pas de
Qui t'a donné ce cadeau-là?
La personne qui m'a donné ce cadeau-là, c'est Alicia Despins, notre nouvelle chroniqueuse municipale. Comment ça va, Alicia?
Ça va bien,
good.
Toi?
Hey, ça va super bien. Merci pour le beau cadeau.
Ça fait plaisir. J'ai vu ça, j'ai pensé à toi.
Ah, je suis tellement heureux, Colin. C'est sûr, je la porte avec fierté durant la période hivernale.
Ça vient du dépanneur de Louvicourt en Abitibi.
Donc là, je vais pouvoir...
Fait plusieurs kilomètres de route pour venir te retrouver.
Je vais pouvoir écœurer mon collègue Max Larouche et dire « Moi, j'ai une tique qui vient de la BTV. »
Ouais.
Ah, je la porte demain matin fièrement pendant le show Marceau le matin. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal?
Oui, bonne idée.
T'es d'accord. Comment ça va? Comment tu te sens d'être à Québec, dans ta ville?
Bien, je me sens bien d'être dans ma ville. J'ai amené mon amoureux avec moi pour le voyage. Fait que là, lui, il appelle ça le farewell tour. Là. Je suis comme bookée tous les jours, mais c'est super. Nice. J'ai le nom de la famille aussi. Puis je suis contente de venir vous jaser de l'élection.
T'as vécu la campagne électorale, toi, à l'extérieur de Québec. Tu la suivais à distance.
C'est ça. Moi, j'ai suivi des jeunes un petit peu partout à travers le Québec. Vraiment des quatre coins, là, entre l'Abitibi puis la Gaspésie. Puis évidemment, j'ai accompagné mon chum dans sa campagne à la mairie de Val-d'Or. Défaite crève-cœur, 58 voix.
Aïe, aïe,
vraiment,
aïe.
Mais en même temps, c'est une défaite finalement qu'on a ressenti davantage comme une victoire là, d'être capable d'arriver aussi près. Puis de faire un impact aussi important là, dans la communauté. Mm-hmm. C'est vraiment incroyable.
Heureusement, il n'y aura pas besoin de gérer la Nulingus de Val-d'Or puis tout ce qui en découle. Fait que c'est parfait pour lui s'il peut se consoler avec ça.
Exactement. Alicia, tu en as parlé beaucoup de jeunes en politique. Un conseil municipal qui va être très jeune et très inexpérimenté à Québec. Comment tu vois la chose?
Moi, ça m'inquiète pas, honnêtement. Puis c'est ça, je vous disais, hors d'onde, là, la seule différence, c'est un contexte qu'on a déjà connu à Québec. Donc, cette élection-ci de 2025 ressemble étrangement à l'élection de 2017 de Régis Labeaume, élu avec une forte majorité, 18 conseillers sur 21, un maire d'expérience. Là, on peut dire ça de Bruno Marchand, c'est son deuxième mandat. La seule différence, c'est qu'en 2017, Régis Labeaume, la plupart de ses élus avaient de l'expérience. Là, la plupart des élus de Bruno Marchand n'ont pas d'expérience politique. C'est des nouveaux conseillers municipaux.
Avec un maire qui apprend encore son métier, veut pas
politique.
Oui,
mais en même
politique.
Temps, 4 ans comme maire, là, à un moment donné, t'as quand même... T'en as fait des budgets, l'administration autour de toi est solide. Ce qui va l'aider aussi, Bruno Marchand, c'est que là, il a reconduit beaucoup de son équipe politique, là, son staff politique. Clément Laberge, qui est reconduit comme chef de cabinet, je pense que personne n'en doutait. Les attachés politiques, le personnel de l'hôtel de ville, tout ça, ça fait en sorte que ça ne m'inquiète pas, cet apprentissage-là. Vraiment pas. Là, je pense que la machine, elle est rodée. Il va repartir là, avec un rythme. Puis ils n'ont pas le choix. C'est le budget hein, dans quelques semaines.
Petite question par rapport à ça. J'ai l'impression que certains se la posent, en fait. à se demander, est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans le parti de Bruno Marchand pour cette élection-ci, je veux dire, la jeunesse était partout.
Ah, vraiment?
On demandait à avoir des jeunes en politique qui s'intéressaient, qui voulaient changer les choses. D'un autre côté, des gens qui se questionnent, sur, il n'a pas pu recruter des têtes qui étaient déjà bien implantées en politique, il n'a pas pu recruter des candidats avec une expérience certes ou... Comment tu expliques ça, toi? Ou tu analyses ça?
Moi, c'est ça. J'ai de la misère à m'expliquer ça. Puis je sais pas, elle est où l'équilibre là-dedans? On dirait que pendant tellement d'années en politique, on s'est dit, bon, la politique municipale, ça attire juste des retraités parce que les conditions, parce que ci, parce que ça. Les jeunes ne s'intéressent pas à la politique municipale. Puis là, on le voit, ce conseil municipal-là, c'est le plus jeune qu'on a jamais eu. On a 4 jeunes en bas de 30 ans.
Ben oui!
Puis là, je le dis, mais il faut qu'il y en ait au moins un qui soit nommé sur le comité exécutif là, avec des vraies responsabilités. Je pense que tu n'as pas le choix quand tu as cette représentation-là d'avoir une voix au sein du comité exécutif. Fait que j'ai de la misère à me l'expliquer, ce contexte-là, parce que ce n'est pas unique à Bruno Marchand. Dans tous les partis, ça a été difficile de recruter. Puis moi, à l'interne, avec Québec d'abord, avec Claude Villeneuve, à un moment donné, c'était un enjeu de se dire, bon, mais... Hey, on n'aura pas de tête grise, de tête blanche. Je pense qu'il y avait une candidate au-dessus de 60 ans, peut-être deux, là, mais c'est ça. Ça a été compliqué cette année dans le recrutement d'avoir cette diversité-là d'âge.
Mais moi, je suis content de voir ça. Parce que je me dis toujours qu'il faut bâtir la ville pour dans 15 ans.
Ouais.
Fait que je me dis, ben tant mieux, c'est des jeunes de 30 ans qui sont là, ils vont bâtir la ville pour dans 15 ans, ben puis ils vont améliorer les choses.
Je suis vraiment mal placé pour te dire que les jeunes en politique n'ont pas leur place.
Oui, c'est vrai. Comment ça, les jeunes sont en politique, Pascal? Ça va, les jeunes, non, c'est pas vrai. Hey, parlant, t'as parlé de Claude Villeneuve, de Québec d'abord, comment tu te sens par rapport au fait que ton parti... à tout le moins, n'existe plus à l'heure actuelle, ne sera plus au conseil de ville?
Bien, regarde, c'est la vie, je vais dire ça comme ça. Là. Je pense que globalement, on est serein dans tout ça. Moi, c'est sûr que la campagne, je ne l'ai pas vécue de l'interne. Là. J'étais en Abitibi pour l'essentiel du mois d'octobre. J'ai davantage vécu à Val-d'Or cette campagne-là. Fait que c'est des contacts, un soutien davantage... morale que j'ai auprès de mes amis de Québec d'abord. Je pense pas que c'est une grande surprise non plus pour personne. Peut-être sur les chiffres, peut-être sur la compétitivité. Tu sais, je pense que certains élus, notamment certains conseillers municipaux, ben en fait.
Ouais, ben exemple Véronique Dallaire qui est finie quatrième.
Qui aurait peut-être pu s'attendre de, tu sais, chauffer un petit peu plus là, la personne arrivée deuxième. Au moins avoir le 15 %. Ça, ça fait mal à plusieurs personnes. Ouais. Pas avoir le 15 % pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas de quoi je parle, pour te faire rembourser une partie des dépenses, une grande partie des dépenses électorales, il faut que tu aies minimum 15 % à la fois les conseillers municipaux, mais à la mairie aussi. Là. Fait que Claude Villeneuve, il est le seul dans son district à avoir eu le 15 % Partout ailleurs, Québec d'abord, ça va être un défi, parce que ça se peut qu'il soit obligé de continuer à essayer d'avoir du financement, mais là, le parti n'existe plus. Ils n'ont plus d'élus. Les bénévoles, après ça, tu sais, la mobilisation,
ouais, ça va être dur, hein?
Là.
Ça va sortir des poches de qui, en fait, pour rembourser ces frais-là,
c'est
payer
les mêmes,
ces frais?
La loi électorale continue de s'appliquer. Fait que c'est des dépenses, c'est des dons des citoyens. Je pense que ça se continue jusque pour toute l'année 2025, là, sauf erreur, pour 200 maximum par électeur par année. Mais sinon,
parce
dès 2026, c'est 100
c'est ça. C'est le parti qu'il faut qu'il rembourse le tout.
Puis, si on se tourne vers Leadership Québec, Sam Hamad, moi, c'est mon impression, mais je ne pense pas que Sam Hamad puis son équipe avaient prévu dans leur budget arriver en bas de 15 % pour être capable de se faire rembourser leurs dépenses électorales.
Certainement pas, parce que quand je parlais à des gens qui étaient quand même haut placés chez Leadership Québec, pour eux, c'était dans la poche, ce 15 %-là.
Ça monte jusqu'à quoi, 150 000, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là, mettons,
le budget
maximal.
Autorisé,
ouais,
c'est
autorisé.
Ça. Après ça, on ne sait pas là,
combien ont dépensé, mais quand même.
Exact. Ça peut monter assez haut. Puis là, essayer de rembourser ça à coût de 100 on l'a
après,
vu avec
des...
la campagne de PKP, on l'a vu avec certains candidats à la chefferie du Parti libéral.
C'est des poches personnelles, après, qui remboursent?
Non, jamais, c'est ça. Après ça, tu peux avoir des amendes personnelles, mais ça ne rembourse pas ce que tu dois, ce que le parti doit. Parce que souvent, dans la structure, tu as besoin de liquidité pour commencer ta campagne. Après ça, tu vas aller chercher des dons à coût de 100 puis de 200 mais tu vas aller chercher un prêt dès le début pour avoir ces liquidités-là pour les pancartes électorales, le graphisme, les communications personnelles, etc. Fait que ils se sont endettés. Puis c'est ça, c'est même ça fonctionne. Tout le monde commence comme ça. Tu n'as pas le choix de t'endetter dès le début pour faire ta campagne puis réussir à aller chercher l'argent. Puis idéalement, bien, tu arrives avec ton 15 %. Il y a une grande portion de mémoire, c'est 70 % là, qui est remboursé. Mm-hmm. Puis après ça, bien, les dons compensent le 30 %, puis tu es correct. Quand tu n'as pas ton 15 % c'est pas mal plus compliqué. Ça se peut qu'il y ait des candidats qui traînent ça pendant des mois, voire des années, à aller chercher là, des 100 $ ici. Là.
Aïe, 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 c'est très difficile pour eux. On va se retrouver à deux partis politiques au Conseil de ville. Québec, Fort et Fier, tu l'as dit, 18 conseillers municipaux, Respect citoyen, 3 conseillers municipaux. Je te fais entendre ce que Stéphane Lachance a dit sur les ondes de Radio-Canada hier. Ben oui, il est allé à Radio-Canada finalement, Stéphane Lachance, Pascal, par rapport à comment il veut être dans l'opposition.
Et je le dis de toute façon, j'y vais d'une façon constructive. Donc, je ne veux pas être une opposition pour dire non à tout prix à n'importe quoi. Et d'ailleurs, on m'a même reproché durant certains débats d'avoir, sur certains enjeux, avoir été sensiblement en accord avec le maire Marchand. Mais je veux dire, quand...
Sur la sécurité.
La sécurité, entre autres, on était sensiblement sur le même point. Donc, tu sais, on n'est pas là pour dire non à tout prix. Quand ça va être bon, on va le dire aussi. Et puis, par contre, lorsqu'on va voir des choses qui, pour nous, ne correspondent pas, ben on va le dénoncer.
Alicia, tu y crois-tu à un Stéphane Lachance, à un Respect citoyen qui travaille de façon constructive après avoir vu tout ce qui se passe sur les médias sociaux concernant leur groupe Tramway, Non Merci, No Way, qui s'est transformé en Respect citoyen?
Je vais le croire quand je vais le voir. Je vais commencer comme ça.
Je suis en même place.
En même temps, il y a une partie de moi qui pourrait le croire dans le sens où une campagne électorale puis un mandat, c'est complètement différent. C'est vraiment pas la même chose. Fait que, alors qu'une campagne électorale, il fallait qu'il parle à ses électeurs, là, il faut qu'il parle à l'ensemble de la population. Il faut qu'il essaye de se faire un nom. Il faut qu'il essaye de regagner en crédibilité parce qu'on va se dire, il en a quand même perdu au fil des dernières semaines avec toutes les frasques là, qu'on a connues. Donc ça va être un grand défi pour lui. Après ça, juste avant la pause publicitaire, tu posais la question sur la collaboration. Ça, est-ce que j'y crois? Non. Malheureusement, j'y crois pas parce que la réalité, c'est que Bruno Marchand, il n'a pas besoin de cette collaboration.
Ben
il est fortement majoritaire à 18. Pourquoi avoir dans les pattes des 3 conseillers de l'opposition qui ont, ils ont tellement fait de bruit sur le tramway? Je ne sais pas à quel point là, cette collaboration-là va être possible, nécessaire, viable. Puis en plus, ben, l'opposition actuellement, Stéphane Lachance et ses 2 collègues, ils ont tellement de défis devant eux. Est-ce que les prochaines semaines, les prochains mois, leur priorité, ça va vraiment être les affaires de la ville, la collaboration, la constructivité? J'ai de la misère à croire ça. Je pense qu'ils ont tellement d'autres défis, puis je peux t'en nommer.
Oui, vas-y, c'est ça, j'allais te demander quels sont les défis qu'ils ont devant eux.
Leur premier défi, ça va être d'exister. Parce que ça risque d'être compliqué pour
en
eux
effet.
Avec le temps qu'ils vont y avoir. L'espace auquel ils vont avoir droit dans l'espace public, au sein du conseil de ville, lors des séances, dans les différents conseils d'arrondissement, ça va être difficile pour eux juste d'exister, tout simplement.
As-tu l'impression qu'ils vont devoir passer par des gens de rififi, des choses comme ça, crier trop, plus fort, comme ils ont fait en campagne électorale, pour attirer l'attention?
Si c'est ça leur stratégie, je pense que ça va leur péter dans la face, au final. Parce que là, Stéphane de la chance arrive avec cette attitude-là d'être constructif, etc. Mais si les bottines ne suivent pas les babines dans quelques semaines, il va reperdre la crédibilité qu'il essaie de regagner. Puis là, à un moment donné, les gens, il y a comme une limite, finalement, à faire croire des affaires puis à pas agir en conséquence. Là. Puis je pense qu'on a vécu aussi avec cette élection-là, c'est une cassure avec des débats, des vieux débats qu'on avait encore dans les airs, là, qui, selon moi, là, sont réglés. Le tramway, je pense que le message est assez fort.
Ah oui, là, c'est réglé.
Les pistes cyclables, la densification. Avec un des défis de l'opposition, ça va être de se trouver des nouvelles missions, finalement. Mm-hmm. Des nouvelles missions de vie. Ils ne pourront plus marteler continuellement le tramway. C'est correct d'avoir un chien de garde. Ça, je pense que ça va être nécessaire, ça va être sain. Mais ils ne pourront plus juste faire ça. Il va falloir qu'ils aillent plus loin dans leur contenu. Après ça, il va falloir qu'ils se structurent, qui se professionnalise. Ça aussi, c'est un autre défi.
On dit toujours que quand on commence, il faut être bien entouré. Là, on a nommé Éric-Ralph Mercier comme chef de cabinet. Bon, j'ai une opinion très tranchée sur Éric Raffemercy. Je te la partage. Je pense pas que c'est l'homme de la situation. Là, et s'il n'y avait pas rajouté Ralph dans son nom, il serait sûrement pas où il est. C'est un homme que je vois pas vraiment de compétences en lui. Donc, je vois pas comment il va aider Respect citoyen à avancer. Là, moi, j'ai travaillé dans les organismes communautaires de Charlebourg pendant 5 ans. On n'a jamais vu. Non, mais on n'a jamais vu Éric Raffemercy. Je sais même pas ce qu'il a fait dans son district.
C'est ça qui te dérange. C'est l'absence que tu as constatée.
Ah oui, l'absence. Puis, tu sais, on se cachera pas là, manque de compétences. Les 2 ans que j'ai couvert les conférences de presse, quand ils parlent, oh my God!
Ben, puis je reviens avec
on
ça.
On dirait qu'on est dans les années 70. Là. Toc, nous sommes rendus en 2025.
C'est ça. Puis je parle de déficit de crédibilité. Je pense pas que c'est avec Éric Raffemercy que tu vas réussir à remonter ta cote de crédibilité. Là.
Non.
Vraiment pas.
Pourquoi on va là, alors?
Ben, je pense que, tu sais, faut se mettre dans la peau de ces gens-là. Le lendemain de l'élection, ça se passe tellement vite. À un moment donné, il faut que tu comptes tes postes très rapidement pour être, pour être effectif. Éric Raffemercy, c'est quand même c'est le premier élu de Respect citoyen, au final, qui est rentré à l'Hôtel de Ville en changement de côté avant l'élection. Il y a tout le temps ces questions-là de loyauté, de récompenser les gens qui ont changé de bord, qui ont permis d'avoir cette voix-là, bon, qui s'est représenté. Pendant un bout, on doutait, là, tout le monde doutait, on pensait tous qu'Éric Raffemercy ne se représenterait pas. Il l'a fait, finalement, l'élection. Fait que je pense qu'il y a un bout de ça qui est de récompenser les efforts de la personne. Après ça, un chef de cabinet, là, ça peut faire 6 mois, puis on peut en avoir un autre dans 6 mois. Là. Mm-hmm. Ça, je pense pas que c'est exclu. Là.
Comment est-ce qu'on va réussir à recoller les pots cassés avec la campagne qu'on a fait pour Stéphane Lachance? Clairement, bon, on a réussi à se positionner en deuxième. Par contre, on a essuyé beaucoup de critiques. On a essuyé des grands articles sur sa vie personnelle. Ça n'a pas été une campagne facile. Les deux hommes, en fait, qui ont affronté Bruno Marchand en politique, clairement ont aidé Bruno à se faire élire. Là. Je veux dire, tout le monde est capable de le dire. Je sais pas s'il y a un post-mortem de leur côté. Sinon, nous, on va le dire ici en ondes, puis après, vous ferez votre propre critique. Mais ils ont aidé Bruno Marchand à être majoritaire, puis à être à nouveau maire de Québec reconduit. Il se passe quelque chose là. C'est des hommes qui avaient un CV politique. Et là, on arrive, on n'a pas beaucoup de pouvoir. La campagne a coûté cher au niveau de toute l'image professionnelle et personnelle que l'on a. Est-ce qu'on a des regrets, d'après toi?
Je sais pas, je pense pas qu'avec... Je pense qu'on est trop tôt en ce moment pour avoir du regret. Là en ce moment, ils sont dans une phase où il faut qu'ils se remettent
sur pied
super rapidement.
Qu'ils apprennent, ça doit être tough.
Là, ils s'embarquent dans une panoplie de formations. Là, il va falloir qu'ils commencent à étudier le budget, qu'ils commencent à prendre des décisions.
Pour le pas de recul, il va falloir attendre encore?
Je pense qu'il va falloir attendre. De toute façon, quand tu sors d'une élection... On dirait qu'il n'y a pas de place à ça, le regret. On dirait qu'il n'y a pas d'espace. Tu ne peux pas continuer de te torturer avec ça, puis de qu'est-ce que j'aurais pu faire, est-ce que si, puis ça, puis bon, ça, c'était une erreur. Il va sûrement avoir un post-mortem avec l'équipe, mais tu ne peux pas passer trop de temps dans cette phase-là de regret. Parce
mais
que
ça va les suivre.
Ça va les suivre, ça va être un de leurs grands défis. Puis quand je parle de se structurer puis de se professionnaliser, mais là, eux autres, ils ont tout avantage à aller chercher du monde qui connaît ça pour vrai, qui vont être capables de les ramener un peu vers de quoi qui est plus sérieux, qui est plus crédible, qui est plus...
Parce qu'ils ne le sont pas?
Non, puis je pense que ça a transparu beaucoup pendant la campagne. Je pense que c'est une de leurs grandes erreurs. S'ils ont des regrets à avoir, moi, en tout cas, à leur place, mon premier regret, ça aurait été de ne pas m'être entourée de professionnels, de gens qui connaissent ça, notamment en matière de communication. Les erreurs en communication qu'il y a eu là, pas inviter des journalistes, se peinturer dans le coin par rapport à toute l'histoire avec sa maman, toutes ces affaires-là, avec des gens calés en communication, je pense pas que ça se soit rendu.
Est-ce qu'un parti qui se structure avec la haine et le dégoût attire des gens professionnels?
Ben non.
C'est ça, hein?
Ben non,
fait
c'est ça.
Ils sont dans un cercle vicieux.
Il va falloir qu'ils se ressentent vers quelque chose. Puis en même temps, cette émotion-là que tu parles de haine, de colère, est-ce que c'est viable à terme? Ça non plus, je pense pas. En termes de mobilisation...
Ça attirera jamais l'électeur moyen.
Mm-hmm. Ça fait son temps, puis ça s'estompe.
Face à ce genre de compétition-là qu'il y avait lors de la campagne électorale, tassons Bruno Marchand de la conversation. Je veux pas que tu joues à la belle-mère, mais quand même, Québec d'abord, c'est terminé. Claude Villeneuve, ça n'a pas fonctionné. Pas du tout. Disons les bons termes. Si tu avais encore été au sein du parti, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Sur quoi tu n'étais pas d'accord?
Ben, je pense que Claude, il était dans une position où il aurait pu prendre plus de risques. Puis c'est plate parce que c'est pas son genre, tu sais, ça y ressemble pas. Claude, il peut pas promettre rien sachant qu'il sera pas capable de le réaliser. Fait que rentrer dans le populisme juste pour faire parler de lui, Claude, il était pas prêt à faire ça. Mais il y avait beaucoup de monde, dont moi, qui le poussait vers ça. Tu sais, d'avoir des projets de société plus qui marquent davantage l'imaginaire. Parce que son grand défi à Claude Villeneuve, c'est qu'il est ultra compétent. Mais dans cette campagne-là qu'on a eue, c'était une campagne de bruit. Puis ça a fait en sorte que Bruno Marchand s'est imposé comme la valeur refuge, dans le fond. Là. Les gens se sont tournés vers Bruno Marchand. Puis Claude, autant Claude Villeneuve que Jackie Smith, avec leurs idées, avec ce qu'ils proposaient, n'ont pas réussi à se démarquer à travers ces choix-là. C'est resté une course à deux, essentiellement. Ouais. Là.
Puis, il ne nous a pas fait rêver.
Non, il y a ça aussi. Puis c'est pas par faute d'avoir essayé, mais je pense qu'il était juste à côté.
Trop pragmatique?
Peut-être. Puis tu sais, il a essayé de faire rêver avec le 500e, c'est ça? Le 500e oui, d'armée de Jacques Cartier. Je pense pas que les électeurs de la ville de Québec étaient là-dessus. Là. Je pense pas que c'est ça qui fait rêver le monde de Québec actuellement. Après ça, la solution magique, qu'est-ce qu'il aurait pu promettre ou faire différemment? Je pense pas qu'il y en avait une. Là.
Je propose la motivation. Peut-être que ça aurait changé certaines choses parce que Claude Villeneuve, très tôt, s'est positionné comme étant dans l'ambiguïté d'être le chef de son parti, quasi de se représenter aux prochaines élections. Bien avant la campagne, quand on veut un leader, quand on veut un chef d'équipe, c'est rare qu'on se tourne vers la personne qui hésite à prendre cette position-là. Il avait de bonnes raisons, la famille, le ci, le ça. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il s'est tiré dans le pied également pour son positionnement politique.
Puis à sa défense, je pense qu'il s'est fait autant tirer dans le pied qu'il s'est fait retenir par bien du monde, puis notamment à l'interne, tu sais, les gens, les élus de Québec d'abord, qui, on le voyait bien, là, qu'à un moment donné, c'était pas le charisme incarné.
Non, ça collait pas.
Les gens de Québec aiment ça, un maire qui a du charisme, un candidat à la mairie qui est très charismatique, qui rayonne. Bruno Marchand incarne ça, Régis Labombe incarne ça. La mairesse Boucher incarnait ça aussi à sa façon. Fait qu'on est habitué à avoir ces personnalités là, fortes et colorées. Claude Villeneuve répond moins à ça. Fait qu'autant il s'est fait freiner par sa gang, autant je pense qu'il s'est tiré dans le pied aussi de cette façon-là. La réalité, c'est que historiquement, à Québec, on n'élit pas des chefs d'opposition comme maire de la ville de Québec. Déjà, juste dans le rôle dans lequel il était, d'être chef d'opposition, c'était déjà une prise contre lui.
Ouais, tu pars pas, puis tu réussis pas à franchir la marche. Je termine cette excellente discussion, puis ça va être le fun qu'on se parle aux deux semaines, Alicia Despins. Yes. Jackie Smith, hier, qui a fait une montée contre les médias, qui a dit sur Radio-Canada, c'est de votre faute si Bruno Marchand était élu parce qu'il sort avec Monique Néron, puis vous en avez fait votre candidat vedette. Moi, je suis tanné que les politiciens parlent contre les médias. Je me dis, sois bon, puis la population va voter pour toi. Je me trompe-tu?
Je suis d'accord
à 100%.
Ça sert à rien. Les médias, ils existent. Il y a pas, tu peux pas te battre contre ça. Tu peux pas te battre contre cet écosystème-là. Si tu n'es pas capable de naviguer dans l'écosystème médiatique, tu pourras pas réussir en politique. Là.
Non, c'est ça.
Ça va de pair, ça va ensemble. Puis c'est dommage parce que c'est ça, souvent, les politiciens, bon, à chaque fois qu'il y a quelque chose contre eux, ben là, ils s'imaginent que c'est de la faute des médias.
Ah oui, tu sais, j'entends ça de l'équipe.
Dans un miroir.
Ben, c'est ça, j'entends ça de l'équipe de Sam Hamad à côté. C'est de la faute de Radio-Canada. Oui, mais Sam, t'as fait une conférence de presse dans un jeu d'eau qui est parti. T'as créé la chanson Leadership Québec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'sais? Même principe, t'sais, j'entends ça de Stéphane Lachance. Hein, ils ont parlé de mes étiquettes. Non, mais t'es-tu payé ou t'es-tu pas payé tes étiquettes? Donc...
C'est très mal connaître. On dirait, c'est ça, c'est très mal connaître la politique à Québec. Mm-hmm. Ouais. Savoir qu'il y a des médias, il y a des journalistes, plusieurs journalistes attirés à la politique municipale par médias à Québec, ce qu'on voit pas n'importe où ailleurs.
En effet.
Fait que vous autres, tu sais, votre job, c'est d'avoir du contenu, de sortir des articles, des
connaître les candidats.
Fait que c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que les journalistes aillent creuser davantage. puis ils sautent sur chacune des occasions pour avoir une nouvelle. C'est ça l'écosystème
médiatique à Québec. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je pense que pour ce candidat-là, Stéphane Lachance, quand c'est rendu qu'on avait des articles sur sa vie personnelle, sa gestion personnelle, sa rigueur, etc., le point n'était pas ce qui était comme fait. Le point était comment tu l'expliques, comment tu te défends de ça. Ce qui est surprenant pour nous, c'est qu'il n'y en avait pas de réponse de prête.
Oui. Ouais. Bien, puis après ça, tu réponds quoi à ça? Tu essaies d'être le candidat de la rigueur financière, puis tu ne payes pas tes tickets depuis, depuis des années.
Est-ce qu'il aurait dû s'abstenir de se présenter à ce moment-là s'il savait qu'il allait se faire? Parce qu'une fois que c'est fait, c'est pas payé, ça reste, c'est présent.
Ça reste, c'est un peu naïf aussi de penser que ça fera pas débat. Bon, la résidence à Lévis, c'est une autre affaire. Des candidats qui est allé chercher. Fait que c'est toutes des erreurs un peu de débutants qu'on peut attribuer à la naïveté de penser que ce sera pas grave dans l'élection. En même temps, je veux juste dire...
Ben, voici.
Moi, jamais j'aurais pensé qu'il pèterait des scores à 23,4%.
Non, en effet, en même temps, il faut lui donner ça.
Il y a de quoi qui s'est passé qui, mine de rien, il a quand même fait une méchante bonne campagne. Là,
t'as
tout ça, là.
Entièrement raison. Alicia Despins, merci beaucoup. On se reparle après le prochain Conseil de ville.
Absolument.
Yes, merci d'être venu ici en studio à Québec. Je te souhaite un excellent week-end à Québec avec ton amoureux.
Ouais.
Fais-y découvrir notre belle ville.
Ben oui, je vais faire ça, absolument.
Notre capitale nationale qui rayonne. Cool. Et merci pour le cadeau.
Plaisir.
Hey, good vibe. Check ça, Pascal. J'ai gardé toute l'entrevue.
Ouais, d'abord, tu vas apporter pas mal cet hiver.
Et voilà. Après cette courte pause à Boulevard, on fait le tour de l'actualité. On va également parler du 900e but d'Alex Ovechkin. Pascal, je suis en train de t'intéresser au hockey. Je le sais, je suis convaincu de ça.
Tranquillement, vraiment pas vite.
Ouais, c'est ça. Et après l'actualité, ce sera Ruben Gazal qui va venir s'installer avec nous pour parler de son livre qui a pour titre « Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs ». On va humaniser l'immigration, Pascal, c'est vrai. On va se donner ça comme mission sociale. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, l'émission L'Enjase.
Jusqu'à 4.